Épître de Tite, s'il vous plaît. L'épître de Tite. Alors, on va lire du chapitre 1er, verset 10, au chapitre 2, verset 15, c'est-à-dire jusqu'à la fin du chapitre. Chapitre 1er, verset 10, chapitre 2, verset 15. Alors, j'ai découpé notre texte en trois. Essayez de voir avec moi. On va d'abord lire du verset 10 au verset 16, le chapitre 1er. Ensuite, au chapitre 2, on ira du verset 1er au verset 10. Et on terminera du verset 11 au verset 15. Alors, je vous donne l'intitulé de chacune de ces parties. La première partie que l'on va lire, c'est « Une foi malsaine ». La seconde partie, « La saine doctrine ». La dernière partie, « L'éducation de la grâce ». On y va ? Alors, chapitre 1er, verset 10. C'est pas grave si l'enfant fait du bruit, hein. J'essaie de rassurer le papa, parce que des fois, on veut que nos enfants... C'est pas grave, je suis content qu'il y ait des enfants. Si on les entend un peu, ça ne me dérangera pas. Chapitre 1er, verset 10. Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux, c'est-à-dire pour de l'argent, hein, ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète ou philosophe, a dit « Crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession, ils disent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant... Des fois, Paul, il mâche pas ses mots, hein. Étant abominable, rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre. Amen. Alors, je vous explique pourquoi j'ai intitulé cette première partie « Une foi malsaine ». Vous regardez avec moi au verset 13. Là, c'est écrit « Reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine ». C'est donc qu'ils avaient une foi malsaine. Et ils avaient besoin d'être rectifiés pour que leur foi soit dépolluée, soit assainie. Ils avaient la foi, mais ils l'avaient polluée par des ajouts nocifs. Alors, c'est qui ces gens-là? C'est le verset 10 qui nous l'indique. Les judaïsants, c'est-à-dire des juifs, rebelles. Alors pourquoi les juifs rebelles? Parce que comme ils ne voulaient pas accepter la foi en Jésus-Christ, ben ils devenaient des rebelles. Ici, les rebelles, c'est pas ceux qui lèvent le poing et qui cassent les vitrines des magasins. Les rebelles, ce sont ceux qui refusent de croire en Jésus-Christ. Et Paul dit, il y en a beaucoup parmi les juifs, mais lui-même est juif. Et c'est beau de voir que cet homme qui aimait profondément Israël, ben là ici, il est honnête, hein, il va dire des choses honnêtes sur les Crétois, mais il dit avant de son propre peuple, ah, il dit, c'est des rebelles, ils refusent Jésus-Christ, ils ne se soumettent pas à la foi. Alors, donc ce sont les judaïsants. Un jour, un historien a dit, si le judaïsme a été le berceau du christianisme, il a failli devenir son tombeau. Et c'est vrai, le salut vient des Juifs. Les apôtres, les premiers dirigeants des assemblées étaient des Juifs. Mais après, ça commençait à mal virer dans les églises. Et des Juifs qui venaient et qui disaient « Mais c'est bien de croire en Jésus, mais c'est pas suffisant. Il faut pratiquer le sabbat, il faut se circoncire, il faut observer la loi de Moïse. Et il faut, et il faut, et il faut. » Dieu avait simplifié en Jésus-Christ le salut. C'était trop simple pour eux, hein. Et il fallait qu'ils en rajoutent et qu'ils en rajoutent. Et là, on tombe dans une foi malsaine. Comprenez? La foi malsaine, c'est la foi à laquelle on ajoute autre chose que l'évangile. Alors, c'est quoi qui était ajouté? C'est le verset 14 qui nous l'explique, des fables judaïques et des commandements d'hommes. Des commandements d'hommes. Alors, c'est pas donné le détail, et c'est tant mieux comme ça, parce que moi je pense que chaque génération a ses commandements. On est fortiche pour avoir des commandements d'hommes. Ah, tu dois pas faire ça, c'est pas bien, il ne faut pas. Attention, il y a le bien, le mal, mais ça c'est Dieu qui le définit. Il ne faut pas ajouter des commandements d'hommes et faire devenir la foi quelque chose qui redevient pesant. Pierre dit, il n'y a personne qui a jamais réussi à accomplir la loi. On ne va pas leur demander ça. Amen. Il suffit pour nous de croire au Seigneur Jésus pour être sauvés. Alléluia. Et peut-être, on dit, ouais, mais moi je suis chrétien et je ne fais pas ça. Au début, je lisais des livres sur le réveil. La prière, clé du réveil. Voilà, je prenais les livres, j'étais jeune converti, jeune chrétien, et je lisais. Et un jour, j'ai lu. Si un chrétien ne passe pas 2 heures en prière par jour, bon, c'est zéro, quoi. Oh là là, ouf. Je me suis dit, je suis nul. Oh là là, ça, c'est des commandements d'hommes. C'est jamais écrit dans la Bible qu'il faut beaucoup prier pour être sauvé. Amen. Alors, me souviens, je mettais un petit réveil. Je priais. Puis j'ouvrais un œil. Une demi-heure. Ah, il faut que je continue. Mais c'est fatigant, hein. Et c'est pas ça la prière. La prière, c'est une relation avec Dieu. Amen. C'est pas du sport. Quelqu'un un jour a dit, il vaut mieux l'onction que la transpiration. C'est bien vrai, des commandements d'hommes. Et on en a, vous savez, des fois, on en a pas mal. Et on se culpabilise, on se condamne à cause de commandements d'hommes. Là où le Seigneur nous dit, va en paix, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Alors vous pourrez prier peut-être un jour 2 heures, hein, pourquoi pas, mais peut-être jamais. Moi je dis souvent aux chrétiens tourcoing, écoutez, il vaut mieux prier régulièrement que longtemps une fois. Vous ne trouvez pas? Le matin, Seigneur, je te bénis. Alors, je vais vous décevoir, allez, on commence avec 5 minutes. Oh non, c'est pas assez, frère. Le midi, un peu le soir, avoir un contact avec le Seigneur régulier. Vivre en sa présence, amen. Plutôt que d'être fier d'avoir prié 2 heures du matin. Deux heures en longueur. Mais parce que des fois, il faut se lever à 2h du matin si on veut vraiment. Voilà. Alors, le verset 15 nous dit quelle est la véritable souillure. C'est la souillure intérieure. Paul dit tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais pour ceux qui, de façon, sont impurs, tout est souillé, tout est sale. Ah ben oui, ça, les juifs, c'est ça, hein, à l'époque, c'était... Eh ben, si tu touches ça, c'est sale. Si tu vas là-bas, c'est sale. Mais vous savez, des fois, on peut passer la vie chrétienne à s'occuper tout le temps du problème du péché. On pense sans arrêt au péché. On dit, mais même si c'est pour l'éviter, hein, mais on pense toujours au péché. Il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je me salisse. Mais ayons les regards fixés sur Jésus. On ne s'en rend pas compte, mais des fois, on est toujours fixé sur soi. Même dans de bonnes intentions, de progresser avec le Seigneur. Et on s'introspecte, on essaye de voir ce qui ne va pas. Mais laissez le Seigneur, sonde-moi, ô Dieu. Laissez le Seigneur, il va vous le dire, vous inquiétez pas. Et vous allez venir à la... Mais il ne va pas, enfin... Des fois, quand on se recherche soi-même, on se fait un peu plaisir, on trouve des choses. Mais des fois, quand c'est le Seigneur qui nous parle, ça ne nous plaît pas. Ce n'est pas pareil. Eh oui. Alors, oui, il dit, mais on n'est plus dans cette conception des choses. On a été purifié par le Seigneur. Amen. On doit se laver les pieds, hein, le lavement des pieds, dans Jean 13, mais pas tout. Pas tout. Lave-moi entièrement. Mais le Seigneur l'avait purifié par sa parole. Gloire à Dieu. Il faut simplement, dans la marche, quand on chute, quand on commet des fautes, ben, se laver, demander au pardon au Seigneur. Et puis voilà, mais ça ne remet pas tout en cause. Hein, des fois, quand on est dans des moments difficiles, on doute de son salut. On se dit, mais est-ce que je suis encore sauvé? Ben, ça, c'est Pierre qui dit, lave-moi tout entier, Seigneur. On remet tout en cause. Mais non, c'est l'œuvre du Seigneur qu'on remet en cause alors. Ah, c'est pas la même chose. Non, la véritable souillure, elle est intérieure. Ces gens-là, ils avaient une conscience souillée, c'est-à-dire dans leur conscience, tout était de travers et ils ne pouvaient pas comprendre. Quelle sévérité pour eux, dans le verset 16, on l'a dit, abominable, rebelle. Alors, ils devaient être repris. Ce texte, j'ai parfois pensé que Paul disait à l'Église, reprends-les sévèrement. Mais quand on relit bien le passage, Paul dit ça au sujet de ceux qui ont une foi malsaine, pas de toute l'Église, de ceux qui sont en danger parce qu'ils sont dans la judéisation. Je vous laisserai cela à la réflexion. Deuxième partie, la saine doctrine, chapitre 2, verset 1er, si vous voulez bien lire avec moi. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes enfants à aimer leurs maris et leurs enfants et à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien voler, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Amen. Alors, je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai lu cela, il y a longtemps, j'étais un peu déçu. Parce que le chapitre dit ce qui est conforme à la saine doctrine. Alors je me disais, ah, c'est bien. Là, Paul va m'expliquer en théologie qu'est-ce que c'est que la saine doctrine sur Jésus, son retour, sur l'Église, etc. Et puis quand on lit la suite, ben, il n'y a rien de tout ça, vous avez remarqué. La saine doctrine, ce n'est pas de la théologie. La saine doctrine, c'est de la vie. La saine doctrine ici, c'est une doctrine concrète pour la vie de tous les jours. Dis les choses conformes à la saine doctrine. Alors c'est quoi? Ben, les vieux, les femmes, les jeunes, les esclaves, et en passant, le pasteur. Ah oui? Ce qui compte dans la saine doctrine, c'est pas d'avoir la bonne théologie, mais c'est d'avoir une vie saine. Une vie qui glorifie le Seigneur. Amen. Il commence par les vieux. Pour moi, le mot vieux, c'est respectueux. Je ne sais pas ici si c'est comme ça ou pas. Il commence par les vieux. Et ça, c'est aussi étonnant. Parce qu'on se dirait, mais quand même, c'est pas d'abord eux. Eux, c'est bon. Ils ont de l'expérience. Ils n'ont pas besoin de conseils. Mais ça commence par les vieux. Alors pourquoi je me suis un peu gratté la tête? Mais oui, bien sûr. Parce que les vieux, c'est des références. C'est des exemples. Ils viennent en premier par honneur. Alléluia. Nous sommes dans une société atteinte du jeunisme. Il n'y a que les jeunes qui comptent. Et très vite, on n'est plus bon à grand-chose. Ah oui, je me souviens, mon gamin était tout petit dans la voiture, derrière, il dit « Papa, tu vas bientôt mourir. Ben, pourquoi ? T'as des cheveux blancs. » Ah oui, ben oui, c'est vrai, on vieillit. Mais dans l'Écriture, l'âge faible, c'est plutôt la jeunesse. L'âge fort, physiquement. Et, en fait, dans l'assemblée, les yeux sont sur les personnes qui ont vécu avec le Seigneur depuis un certain temps. Et il me semble que dans la Bible, il y a quand même des vieux qui ont mal vieilli. Et c'est quand même un danger. Vous en connaissez ? Salomon, c'est pas quand il était jeune qu'il a dérapé. Quand il était âgé. Eh oui, Élie le sacrificateur, il n'était pas tout à fait jeune quand il est tombé à la renverse. Ah non. Ça m'a étonné, c'est il y a longtemps, un frère d'un certain âge disait: il faut que nous fassions attention aux vieillissants, parce qu'il y a aussi les pièges liés à la vieillesse. Bon alors, on doit tout le temps veiller en fait. Parce que quand on est jeune, on dit « Seigneur, garde-moi, je suis faible !» Mais quelque part même quand on vieillit, « Seigneur, garde-moi, parce que je suis encore faible. » Amen. On doit veiller jusqu'à la fin de notre vie. Amen. Ensuite, il s'agit des femmes. Les femmes plus âgées et plus jeunes. Les deux. Les plus âgées doivent aider les plus jeunes. C'est beau ça. Amen. C'est beau que dans les églises, il n'y ait pas de fracture générationnelle. Mais qu'il y ait des sœurs plus âgées qui aident des sœurs plus jeunes par des conseils affectueux. Amico, amen. Et je vais peut-être m'adresser aux belles mamans. Alléluia. Et de dire, quand les enfants, ça va pas trop, quand ils se disputent, c'est pas le quart d'heure de mettre de l'huile sur le feu. C'est vrai, ma fille. Oh, c'est un bon à rien. Oh là 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 là. Non, l'Écriture dit, faut que les femmes plus âgées, elles aident les plus jeunes. Oh, tu sais, ma fille, les hommes, ils sont comme ça. Attends un peu. Prends-le du bon côté. Alléluia. Hein, voilà des bons conseils. C'est s'entraider. Merci Seigneur. Dans la différence des expériences. Gloire à Dieu. Alors, il est écrit « Apprendre à aimer leur mari ». On a envie de dire « Ben, tu l'aimes ou tu l'aimes pas ?» apprendre à aimer leur mari. Ben, c'est vrai. Des fois, c'est pas facile d'aimer un mari. Parce que les maris sont pas toujours faciles. Non, il y a que moi peut-être. Hein. Et pas toujours facile d'aimer. Dimanche, je disais, l'amour, ça s'apprend. Eh bien, on le voit là. J'en parlais plus d'apprendre à aimer ceux qui nous font du mal. Mais c'est pas toujours plus facile d'aimer ceux qui sont tout près de nous, avec qui on vit. Et le plus important, c'est l'amour quand même. Amen. Si on vit ensemble sous le même toit, mais qu'il n'y a plus d'amour, c'est terrible. Le plus important, c'est de s'aimer l'un l'autre, dans le Seigneur. Apprendre à aimer leur mari. D'abord, c'est après que c'est dit, et leurs enfants. Parce qu'il y a des femmes qui se réfugient dans leurs enfants. Parce qu'elles n'aiment plus leur mari, elles se passionnent pour leurs enfants. Mais ce n'est pas ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit apprendre à aimer leur mari. Il y a un ordre dans l'amour. Amen. Oh là là, je suis désolé. Apprendre à aimer d'abord son mari. Et après, ses enfants. Vous savez, des enfants. Même si la maman, elle est à fond pour eux. Des enfants qui vivent et qui grandissent dans un foyer qui ne s'aime plus, ça leur fait un mal considérable. Et vous pouvez tout leur donner, leurs caprices, de l'argent. S'ils sentent que papa et maman ne s'aiment pas, ça n'ira pas. Hein ? À aimer leur mari et leurs enfants. Alors là, on se dira, bah, les enfants, c'est facile pour une femme. Je ne suis pas une femme. Mais moi, j'ai cru remarquer que ce n'était pas toujours évident pour toutes les femmes. J'ai déjà rencontré même des sœurs qui pouvaient dire, moi, je n'ai pas l'instinct maternel. Bon, c'est un peu bizarre. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus on entend ça. Parce que la vie moderne ne favorise plus la vocation de la femme. Et ça se perd un peu. Et alors là, je voudrais peut-être m'adresser à une sœur qui s'en veut un peu et qui dit, mais moi je me souviens, ma maman faisait des gâteaux, elle aimait bien ses enfants, elle s'énervait jamais. Moi, mes enfants, des fois, j'en ai assez. Écoute, t'es pas une extraterrestre. Et le Seigneur, il va t'apprendre à aimer tes enfants. Alléluia. À progresser et à les aimer. Et ce n'est pas facile de s'occuper des enfants. Et on a besoin de toute l'aide du Seigneur. Les mamans, je voudrais vous demander, vous dire, soyez pas maman sans le Seigneur. Mais demandez au Seigneur de vous aider avec vos enfants. Amen. Et puis peut-être, moi j'ai des enfants qui sont partis de chez moi, hein, peut-être qu'il faut même les aimer quand ils ne sont plus à la maison. Parce que des fois on pense qu'on aime nos enfants tant qu'ils sont chez nous. Mais on continue de les aimer quand ils sont partis aussi. Amen. Et ça c'est une autre façon d'apprendre, parce que là c'est encore autre chose. C'est une autre phase dans la vie. Puis peut-être apprendre à aimer ses enfants d'un amour purifié. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais parfois il y a des moments, ils ont un amour passionné pour leurs enfants. Et ça, il faut que ce soit un amour sanctifié. Amen. Il y a des mamans qui se régalent, mais qui se servent elles-mêmes. Aimer, c'est aimer l'autre. C'est pas aimer soi. Amen. Et il ne faut pas, je pense qu'une femme ne doit pas vivre qu'à travers de ses enfants. Elle est une personne à part entière que Dieu aime. Amen. Après, c'est écrit, alors là, c'est le pire là, ce que je vais dire, soumise à leur mari. Alors là, j'ai noté, pas le dominer. Parce que déjà, avant de se soumettre, peut-être, je voudrais vous dire, ne dominez pas votre mari. Des fois, il ne peut pas en placer une. Hein. Ah, c'est impossible. Alors, frère, et puis la sœur, elle répond. Ah bon? Et on essaie de revenir, et la sœur, elle re-répond. Oh là 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 là. Déjà, pas dominer, pas étouffer son mari. Amen. Il ne faut pas que ça vous fasse mal au cœur si vous êtes un peu concerné. Hein. Ce n'est pas pour vous juger. Et personne ici n'est là pour dire « Ah, ça concerne un tel ou un tel. » On n'est pas dans cet état d'esprit-là. Pas le dominer. Et peut-être un deuxième élément, soumise à son mari en cas de désaccord. Ça, c'est plus compliqué. Il y a une décision à prendre. Et on n'est pas d'accord. Alors l'idéal, je suis d'accord avec vous. Ah non, on prend les décisions ensemble, c'est toujours ensemble, lalani. Mais des fois, on n'est pas d'accord. Ben, je crois qu'il faut laisser alors le mari décider. Non. Vous savez, ça évite les accidents. Ceci, quand vous êtes en train de rouler, vous dites « Non, c'est par là !» Et vous prenez le volant. Et que le mari « Non, c'est par là !» Non, c'est pas. Ben, vous allez avoir un accident. Il y en a un seul au volant, quand même. Sinon, c'est dangereux. Pourquoi je vous dis ça? Peut-être que parfois, vous vous faites du mal. Parce que vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Mais c'est là qu'intervient la foi. Une femme croyante va se confier en Dieu. Et va dire, Seigneur, mon mari, il se trompe. Mais on fera comme il dit. Je t'en prie, garde-nous. Et le Seigneur le fera. Amen. Ou des fois, ça finira pas très bien. Alors là, surtout, non. Je l'avais dit. Non. Mais plutôt, oui, chérie, c'est pas grave. Et on apprend. Amen. Soumise, il vaut mieux, vous savez, des fois, se dire, bon, ok, Seigneur, je me confie en toi, que de faire la guerre à la maison. Ça va pas. Il gère pas le truc comme vous voulez. D'accord. Mais tant pis qu'il le gère comme ça. Il faut pas perdre votre paix, mes sœurs. Il faut garder la maison en bon état. Amen. Plutôt que se disputer, parce que pas contente qu'il ne fait pas comme il doit faire. Non, Seigneur, c'est lui qui règne dans le foyer. Amen. Alors, j'étais un peu plus long sur le sujet. Alors, vous allez me dire, ouais, le frère, il vise les sœurs. Maintenant, j'ai voulu respecter le texte, parce que le texte développe plus ce sujet. Donc j'ai fait comme le texte. Alors pourquoi? Une sœur va dire, c'est pas normal ça, elle est mariée. Parce que je voudrais vous dire que la femme a une place très, très importante, qu'on ne mesure pas tout à fait. Nous les hommes, notre femme a une énorme influence sur nous. Même que, voilà. Ce qu'on les aime, ce qu'elles disent nous touche, et ça nous affecte. Et je voudrais vous dire, mes sœurs, vous avez une très belle vocation, celle de seconder votre époux, de vous occuper de vos enfants, d'apprendre à aimer. C'est une très belle vocation. Et chapeau de tout ce que vous faites. De tout le bien que vous faites autour de vous. Et peut-être des fois, vous ne faites pas que du bien. Mais honnêtement, vous faites beaucoup plus de bien que de mal. Alléluia. Parce que c'est une belle vocation. L'importance de la femme. Dans l'assemblée, une des assemblées que mon épouse a connues, les chrétiens entre eux appelaient la femme du pasteur l'adjudante. C'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Ou alors, le caporal. Non. Une femme a beaucoup plus d'influence qu'on ne le pense. Mes sœurs, vous pouvez faire énormément de bien, énormément de mal. On continue, verset 6. C'est les jeûnes. Alors qu'est-ce qu'il dit les jeûnes ? Soyez pas excessifs. Soyez modérés. Parce que les jeunes ont cette tendance à l'excès et à l'exagération, à l'amplification. Alors la parole de Dieu dit, t'es jeune, va pas trop vite à juger, va pas trop vite à parler, mais de la modération. Amen. Verset 7, c'est le pasteur. Et verset 8 aussi, te montrant toi-même à tous égards. Parce qu'attention, il n'y a pas que les chrétiens de l'Église. Le pasteur aussi doit obéir à la parole de Dieu. Amen. Parce que si le pasteur n'obéit pas à la parole de Dieu, ça va pas aller. Et il lui est donné des conseils. Et encore une fois, il est question d'une parole saine. La foi saine, la doctrine saine, la parole saine, ça revient quand même beaucoup dans ce passage. Qu'est-ce que c'est qu'une parole saine ? Une parole saine, c'est une parole qui va favoriser la santé. C'est une parole qui ne sera pas excessive, mauvaise, mais bonne pour le peuple de Dieu. En étant vraie, mais dans l'amour. Une parole saine. Amen. Priez pour nous. Pour que le Seigneur nous fasse grâce et que nous progressions. Et que nous ayons une bonne parole pour l'Église. Verset 9, les esclaves. Il leur est demandé de ne pas contredire, de ne pas être contredisant. Alors je voudrais vous rappeler quelque chose de tout simple, c'est le chef qui décide. Parce qu'au boulot, quand le chef il dit quelque chose, « Ah ouais, mais on pourrait faire mieux. »« Ah ouais, mais c'est bête parce que moi, je sais comment il faut faire. » Ne pas être contredisant. Mais on vous demande de faire quelque chose, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Amen. Alors là, ça concerne moins, à l'époque en tout cas, les sœurs, parce qu'on n'a pas été l'heure des sœurs, mais vous savez, des fois on peut se dire, ouais, mais c'est pas normal, c'est le mari qui est le chef, et à la maison, et c'est lui le chef. Mais vous savez, on le voit, ça c'est le problème, c'est qu'on ne le voit pas. C'est qu'il y a des frères au boulot, ils en prennent pour leur grade, hein. Et doivent obéir à des gens qui ne sont pas aussi sympas que votre mari. Et ils doivent non seulement plier, mais le pire, c'est qu'ils doivent le faire de bon cœur. Là, il n'y a que le Seigneur qui peut faire quelque chose. Amen. Il ne dit pas que les esclaves doivent arrêter d'être esclaves, mais plutôt d'être de bons esclaves. Enfin, les motivations, versets 5, 8 et 9, c'est éviter la calomnie de la parole de Dieu, éviter, rendre confus le diable, faire honorer la doctrine. Pourquoi Paul parle de tout cela dans la sainte doctrine ? Le but de tout ça, bien aimé, que l'on soit ainsi de bons vieillards, que l'on soit de bonnes épouses, que l'on soit des jeunes modérés, que l'on soit un bon pasteur, que l'on soit un bon esclave, tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. Le meilleur témoignage, c'est ni un prospectus, ni une campagne d'évangélisation. Le meilleur témoignage, c'est celui de tous les jours, à la maison, au boulot, à l'école, etc. Amen. Que le Seigneur nous aide. Dernière partie, verset 11 à verset 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. On arrête là, le dernier verset sera la conclusion. Alors, l'éducation de la grâce. Il y a le salut de la grâce de Dieu, source de salut, verset 11. Et verset 12, il y a l'éducation de la grâce. Elle nous enseigne, une traduction dit, elle nous éduque. Elle nous éduque. Quand je me suis converti, j'étais loin de Dieu. J'ai dû quasiment tout réapprendre. Mes parents n'étaient pas mariés. J'étais vraiment converti. Mais vraiment, je me disais, c'est pas important de se marier. On peut vivre en concubinage et s'aimer. Quand on vient du monde et qu'on est sauvé par la grâce de Dieu, après, il y a la rééducation. Je pense que l'Église est un établissement de rééducation. Et il nous faut réapprendre la vie selon la parole du Seigneur. Amen. Alors, la grâce, elle nous éduque. Donc, la grâce, c'est pas la loi. Mais la grâce, c'est pas le laisser aller. La grâce, c'est Dieu qui va nous éduquer et nous changer. Amen. Et nous avons bien besoin d'être rééduqués. Versets 13 et 14, je ne veux pas être trop long, eh bien, c'est le rappel de Jésus. Il est dit, la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu. Donc c'est son retour, il s'est donné pour nous. Amen. On aura toujours besoin d'entendre parler de Jésus. Là, on a eu des conseils très pratiques sur ce qu'on a dit dans la famille, etc. Mais l'évangile, c'est avant tout Jésus-Christ. Qui revient, qui s'est donné pour nous et pour notre vie. Amen. Alors c'est vrai que la grâce nous éduque, mais vous savez, dans ce chemin-là, des fois, c'est un peu difficile, on a des chutes, mais le Seigneur nous aime. Il s'est donné pour nous et il revient nous chercher. Dieu soit béni. La grâce, il faut toujours se nourrir de la personne de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, la conclusion, c'est le verset 15. Vous voulez bien qu'on lise ensemble. « Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Amen. » Alors, vous avez lu, « dis que », verset 2, verset 3, « dis que », et verset 15, « dis ces choses. » Il faut être courageux pour être prédicateur. Il faut avoir le courage de dire. Vous ne trouvez pas? Priez pour nous. Ce n'est pas toujours facile. Là, j'ai dit ce soir des choses qui peuvent être déplaisantes. Mais il faut que dans l'Église, on dise ces choses. Sinon, on ne changera pas et Dieu ne sera pas glorifié. Dis ces choses. Nous sommes dans une époque où c'est difficile de dire la parole de Dieu. Et priez pour les pasteurs, pour les serviteurs de Dieu. Pour que ce soit des hommes courageux, pas des hommes méchants, durs, mais des hommes aimants et courageux. Amen. Dis ces choses. Voilà. Et il est question, après, de consolation et de répréhension. Exhorte et reprend. Dans l'Église, il doit y avoir les deux. Dans l'Église, on doit être encouragé et on doit être repris. Il y a les deux. Dans la vie, le Seigneur va parfois nous consoler. Et d'autres fois, le Seigneur nous reprendra et nous reprendra même en main. On a besoin des deux. Est-ce que vous acceptez cela, d'avoir les deux? La consolation et la répréhension. Amen. Et c'est ainsi que la grâce nous éduquera. Gloire à Dieu. Voilà quelques rappels que nous savons tous. Mais ne trouvez-vous pas que des fois nous oublions que la saine doctrine, c'est très pratique dans nos vies et qu'on est tellement heureux quand chacun est à sa place. Amen. Et Le texte ne le dit pas, donc là, je ne suis plus tout à fait mon texte, mais je dis quand même. Dans Éphésiens, c'est écrit « Marie, aimez vos femmes ». Amen. Et c'est beaucoup. Que le Seigneur nous aide à faire sa volonté dans notre vie, que sa grâce nous éduque. Amen. Prions ensemble, s'il vous plaît.